Résistant, déporté à Buchenwald, élève à Saint-Cyr, puis officier dans la Légion étrangère, Élie de Saint-Marc va donc combattre en Indochine, à Suez, puis en Algérie. C'est en Algérie d'ailleurs que cet officier a été confronté au dilemme ultime, à savoir le 22 avril 1961, le commandant de Saint-Marc, à la tête du 1er REP, bascule dans la dissidence pour soutenir le putsch des généraux. Il va donc devenir un rebelle et le paiera de la réclusion criminelle. Il cite de manière très émouvante dans ce documentaire « L'honneur est-il dans l'obéissance absolue au pouvoir légal ou dans le refus d'abandonner des populations qui allaient être massacrées à cause de nous ?» Il ajoute « J'ai choisi selon ma conscience, j'ai accepté de tout perdre et j'ai tout perdu. » Nous allons, pour justement donner la promotion et faire la publicité de ce DVD remarquable, nous allons recevoir et avoir l'honneur de recevoir Élie de Saint-Marc dans quelques secondes. Élie de Saint-Marc, bonjour.
Bonjour.
Nous avons vraiment le plaisir de vous avoir. La première chose que je vais vous demander, Élie de Saint-Marc, est-ce que nous pouvons vous appeler mon commandant ?
Non, appelez-moi Élie de Saint-Marc, tout simplement. J'ai été longtemps privé de mon grade et j'ai repris la vie sous la forme d'Élie de Saint-Marc, cadre civil, puis d'Élie de Saint-Marc, auteur. Donc appelez-moi Élie de Saint-Marc.
Alors, Élie de Saint-Marc, vous venez donc, comme je viens de le noter à l'introduction de notre émission, vous avez répondu aux questions et aux documentaires de Georges Mourier, et c'est vrai que vous avez fait là un DVD sur un thème très particulier. Nous avons eu l'occasion déjà de nous rencontrer par l'intermédiaire du micro et des interviews, et en dehors de nos émissions, vous me partagiez que vous aviez été amené par vos conférences à venir dans des endroits très différents, qu'ils soient reçus par des communistes comme par des gens de droite, des républicains comme pour des royalistes, des gens sans opinion. Qu'est-ce qui attire, selon vous, tous ces publics si variés dans votre témoignage ?
Oui, parce que je pense que je ne me suis jamais placé sur le plan de l'historien. Je ne suis pas un historien. Et il se trouve que la vie m'a réservé d'être acteur d'événements importants. J'ai été successivement résistant, déporté à Buchenwald, combattant en Indochine, combattant en Algérie. Je suis passé devant un tribunal de mon pays qui m'a condamné à 10 années de réclusion criminelle dont j'ai fait la moitié. Je pense que j'ai été donc un acteur privilégié, entre guillemets, d'une époque et que il n'était pas mauvais, il n'était pas. Il était important que je puisse témoigner de la manière dont j'avais vécu ces différents événements. Non pas par polémique, non pas par. Pour essayer de dire ma vérité, quel est l'homme qui peut avoir la prétention de ne s'être jamais trompé, mais d'expliquer à ceux qui nous suivent ou qui n'ont pas eu cette expérience ce pourquoi j'ai vécu, ce pourquoi j'ai lutté, ce pourquoi j'ai espéré, ce pourquoi j'ai risqué ma vie. Et je pense que c'est une manière de transmettre aux générations qui nous suivent, notre propre expérience, celle de notre génération.
L'événement Algérie et le putsch n'est certes pas un discours dans lequel les anarchistes vont se retrouver. En quoi, justement, vous êtes une leçon d'obéissance et en quoi vous n'êtes pas un anarchiste ?
Ben, je me suis souvenu, j'ai relu plus tard la phrase de Goethe qui dit qu'il est relativement facile, relativement, de faire son devoir, mais qu'il est très difficile, dans certaines circonstances les plus poussées, de savoir où se trouve son devoir. Et je pense que notre génération, ma génération et celle qui m'a immédiatement précédé, est là pour en témoigner. Nos frères aînés, nos parents ont été en France pris dans des cas de conscience extrêmement difficiles à résoudre. Et je crains que les générations futures ne se trouvent même devant des cas de conscience. Que faire ? Que faire ?